You don't have to see
Ça a commencé par un désir du photographe en fait, puisque c'est une conjonction donc photographie-texte au quotidien qui se déroule en fait, donc, et forcément qui est... L'emploi du temps, 28 novembre 2007, l'inauguration. On avait compté le nombre de personnes qui s'entassaient sur le quai, c'était mathématiquement impossible. Le tramway était arrivé en carillonnant gaiement, rempli jusqu'à la gueule. Il s'était immobilisé pour libérer les rares usagers qui avaient atteint les uns leur but, les autres leurs limites. Le long de la rame, ça affluait pour monter dans le wagon, ça y allait de son enfant, de son chien, de sa poussette ou de son caddie, tout ce que ça tenait à la main était susceptible de garantir l'accès, en mordant ou en blessant si besoin était, mais il fallait être de l'inauguration. La gratuité du week-end n'était qu'une excuse. On se remémorait avec nostalgie les images des métros parisiens aux heures de pointe. Ça aurait été dommage quand même de ne pas en profiter. On avait rejoint le troupeau en poussant à notre tour. Sourires écrasés contre des bras levés. Les portes s'étaient refermées sur nous. L'humanité glissait sur ses rails, étouffée, comprimée, absurde et victorieuse. Comme c'est sur un blog et sur Internet, donc c'est du texte le plus récent au texte de moins récent. Donc résultat, il y a forcément un suivi qui est inversé forcément quand on le prend. Mais il n'y a pas forcément un suivi sur l'emploi du temps. Mais ça, j'y reviendrai après. Donc toujours est-il que par rapport au départ, oui, ça, c'est vraiment le photographe que je connais depuis longtemps qui avait ce désir de travailler avec moi, c'est-à-dire que je puisse travailler moi à partir de ces photos, ou qu'on réussisse à faire un travail à deux qui n'était pas forcément quelque chose d'illustratif, mais qui aurait pu être à la fois quelque chose de complémentaire en fait. C'était réellement ça. Et pendant des années, moi j'ai un peu résisté parce que j'étais pas très très sûr d'être capable, soit de me détacher des photos, soit d'être suffisamment objectif par rapport au travail pour, entre parenthèses, me mettre d'une certaine façon entre parenthèses, entre guillemets, voilà, me mettre entre parenthèses et avoir et ne pas me sentir frustré ou un petit peu de façon très très égocentrique et un peu obscène, en fait, de me sentir lésé ou l'inverse, ou du coup d'écrasé par une certaine supériorité voilà, égocentrique aussi en fait. Donc je savais pas trop en fait vers quoi en aller. Puis j'avais des exemples un petit peu autour de moi de blogs qui me convainquaient pas beaucoup. Donc du coup je passais mon temps un peu à résister, à freiner un peu. Et on a commencé en fait à rentrer dans une certaine blogosphère avec des amis. Je pense en particulier à des blogs de cinéma sur lesquels j'intervenais beaucoup par rapport plutôt de la critique d'image, etc. Donc du coup j'avais ce rapport photo-texte qui me permettait de penser que il y avait une possibilité en tout cas d'intervenir tout en gardant une distance par rapport à l'image. Donc ça m'a beaucoup aidé, je pense, et je rends hommage en fait à Sandrine Marquez de Contrechamp qui était en tout cas à ce moment-là un blog remarquable. Et voilà, donc à un moment donné, je me suis dit, allez, on se lance et puis on essaye quoi un petit peu. Et donc on s'est lancé sur l'idée avec des textes, soit avec des textes très courts en fait, un petit peu qui récapitulaient un peu pourquoi on y allait. Donc du coup, au début, c'était assez sur le présent. Et le but très vite, c'est on a tout de suite pensé en fait que ce qu'il fallait, c'était qu'on insuffle en fait un rythme à ce blog, c'est-à-dire qu'on pouvait pas se permettre de laisser passer une semaine, puis 3 jours, puis de faire des notes comme ça. Tout de suite, on s'est dit, on va le faire, mais on va le faire au quotidien. Il fallait absolument qu'il y ait un parti pris. Et le parti pris, c'était réellement sur une année. Moi, c'est ça. Moi c'était ma limite. J'avais dit, en fait, on a commencé, je crois, le 6 février 2006. Et j'avais dit, on s'arrête le 6 février 2007. Et ce sera un an de blog et un an au quotidien au plus. Et au demeurant, on a tenu quasiment le truc, puisqu'en fait sur 365 jours on a 310 notes, et les jours manquants correspondant aux vacances où on n'avait pas de connexion, et donc du coup c'était forcément plus compliqué. . 31 octobre 2007, l'examen. On avait retroussé nos manches, on s'était levé à l'heure, on s'était demandé si on le faisait ou non, mais c'était l'occasion. On n'avait pas déjeuné, on ne s'était pas lavé non plus, ça avait un goût d'enfance, un goût d'école, un goût de réveil forcé avec le sommeil au coin des paupières et la peur au ventre. On avait serré le poing quand l'aiguille avait pénétré la peau, puis desserré alors que le sang remplissait les tubes à essai. Il y aurait des résultats bientôt, on serait admis ou non, on poursuivait le cursus ou on s'arrêterait là. Ça ne dépendait pas de nous, le travail que l'on avait fait pour préparer l'examen était irréprochable. On avait fêté notre courage dans un café, à proximité du laboratoire, sans comparer nos notes. On révisait ensemble depuis des années, il n'y avait aucune raison pour que l'on échoue. Je m'appelle Laurent Héroux, j'ai publié mon premier livre avec Guillaume Dustan, en fait, dans la collection qui s'appelait Le Rayon, chez Balland. Qui s'appelait Le Rayon Gay d'abord, puis Le Rayon. Et voilà, j'ai rencontré Dustan assez rapidement. Il a été sensible à une certaine sensibilité, justement, en fait, dans mon écriture, qui était un petit peu, je pense, en contre-pied de ce qu'il publiait à ce moment-là dans cette collection-là, puisque mon premier titre était un titre féminin. Ça s'appelait Laura, et dans une collection gay, Laura, c'est vrai que ça a un petit peu tranché. Voilà, donc ça c'était vraiment mon premier texte, qui était un texte assez... qui peut se rapporter à l'emploi du temps, en fait, ce dont on va parler, en fait, parce qu'il y a toute une partie autour de mon journal, donc vraiment avec un quotidien et avec des dates, etc. Donc ça c'était ma première publication. J'ai un parcours un peu complètement atypique. J'ai fait des études de médecine que j'ai abandonné en cours. J'ai bossé dans la publicité à Paris. J'ai été modèle pour la Villa Arson à Nice. Donc j'ai vraiment croisé vraiment des choses. J'ai travaillé dans l'hôtellerie. Donc j'ai fait vraiment des choses assez atypiques et assez différentes. Et tout ça donc parallèlement avec une activité de diariste assez régulière suite à des lectures, quoi. Parce que voilà, le journal de Virginia Woolf est pour moi quelque chose de super important. Le journal d'Anaïs Nin a été une révélation. Voilà, Christine Angot a été une révélation aussi à sa façon, dans une certaine dureté de l'écriture et de possibilité des choses dites, ce que je ne pensais pas. Voilà, je suis rentré en littérature, en fait, réellement, je pense, en 98, en me disant, après certaines lectures, en me disant que vraiment, il y avait des choses possibles et actuelles, ce que je ne pensais pas avant. Pour moi, avant, malgré tout, et sur malgré des études littéraires, parce que j'ai été pris en hypocagne aussi, j'y suis allé, en fait. Hein, j'ai commencé, et puis je suis parti vers médecine, mais j'avais fait un bac littéraire. Et je me suis, pour moi, la littérature restait quelque chose d'assez ancré dans la fiction, quelque chose de très anglo-saxon, et en même temps dans le passé, en fait. J'ai fait du latin, du grec, donc j'étais vraiment très 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 pris là-dessus, quoi. Et donc d'un coup, il y a une grosse ouverture sur la possibilité de se dire, et de se dire de façon universelle ou de façon brutale ou de façon, enfin après, ça dépend du lecteur, évidemment, quoi. Quoi dire, j'ai publié un deuxième roman en 2003 qui s'appelle Femme qui marche, chez un éditeur plus modeste qui s'appelle H&O, qui a eu pas mal de d'échos et de critiques. Donc c'était assez, là c'était une fiction pour le coup, et parallèlement j'ai publié pas mal de textes autofictifs, pas mal en Belgique, en fait, avec une revue des presses universitaires de Liège qui s'appelle Écriture, et donc j'ai eu deux collaborations avec eux. Et puis j'ai travaillé avec Gilles Collard de la revue Pylône, qui est une revue qui mêle art, philosophie et des dossiers sur l'édition assez intéressants, et de la littérature forcément. Et là, j'ai publié donc deux choses. Donc un texte qui me tient beaucoup à cœur, qui s'appelle Nina Myers, qui est un texte qui parle d'un personnage d'une série télévisée un peu connue et qui est vraiment une réflexion de moi. Là aussi, pour le coup, avec un titre féminin, parce que je n'en sors pas. Et Gilles, donc pour Pylône, pour le numéro 5, je crois, a pris, lui, parce qu'au début du blog, sur la première année du blog, l'emploi du temps a pris quelques extraits, une trentaine d'extraits du blog qu'il a mis. Donc j'avais 30 pages dans le Pylône avec Jean-Pierre Paringot, donc le photographe. Lui, Jean-Pierre, en fait, son parcours est très différent. En fait, il a travaillé dans le milieu de l'art dans les années 80 à Nice. Donc il a rencontré beaucoup de monde. Il tenait une galerie, en fait, à cette époque-là. Donc il a rencontré beaucoup d'artistes. Il a donc toujours... Il a un œil, en fait, en tout cas, de galeriste. Et donc, il a un œil, en tout cas, oui, depuis... réellement, je pense que c'est... La chose qu'il définit le plus, c'est son œil. Et du coup, en fait, il a toujours fait de la photo en parallèle, mais sans avoir forcément une ambition artistique. C'était plutôt pour son plaisir. Le numérique, en fait, étrangement, et l'ordinateur l'a convaincu, alors que c'était plutôt quelqu'un d'assez résistant spontanément à ça. Mais du coup, il a quand même découvert des possibilités dingues, et de photos, de vidéos. Il a fait quelques films, en fait, qui sont restés, enfin, pour l'instant très confidentiels, mais qui sont, à mon avis, qui valent le détour. Et voilà, donc, sa photo, donc la photo, en fait, il est venu un peu comme ça, avec, avec vraiment avec, avec une activité de plus en plus boulimique, je vais dire, photographiquement, quoi. Et il a fait la couverture de mon deuxième roman, Femme qui marche, en fait. Donc c'est une photo de lui qui a été prise. Il a eu une de ses photos qui a été choisie pour la sélection en ligne qui s'appelait Hype à l'époque au Palais de Tokyo. Donc il avait aussi, il a eu ça, il a eu voilà quelques clichés remarqués en fait un peu à droite à gauche pour des couvertures pour ce genre de choses et voilà et donc et après ça son travail est remarqué forcément par rapport à l'emploi du temps par rapport au blog par rapport au quotidien et donc par rapport à la publication dans Pylône et celle sur publi.net avec François Beau. 30 octobre 2008, les jours meilleurs. On en avait assez de Nice, on y avait passé trop de temps immobile, on avait grossi l'un et l'autre, on s'était empâté, en s'en rendant compte, mais incapable d'en combattre ni l'évidence, ni le résultat. On avait attendu des jours meilleurs, qui après 2 jours et 2 nuits de pluie torrentielle et salvatrice, illuminaient un ciel redevenu bleu, que quadrillaient des filets de nuages vif argent. L'horizon dessinait des cartes géographiques inconnues, une toile immense, sur laquelle chaque croisement offrait une chance ou un échec. On avait acheté 2 billets de train sans retour. On avait décidé qu'il fallait arrêter de se priver. Obéir à chaque pulsion, chaque désir, on frissonnait dans l'appartement ouvert aux 4 vents. Automne et hiver s'embrassaient enfin par-dessus nos têtes et on approuvait leur union. 26 juin 2006. Réminiscence. J'avais cette habitude, enfant, de plonger mon visage vers mon avant-bras, les lèvres un peu en avant, je caressais la peau, les muqueuses s'accrochaient parfois à la toison fine. Un peu de salive, une odeur musquée se dégageait de moi, que j'aspirais doucement, comme on savoure la fumée d'un narguilé, entre les narines, filtrée. Je tétais, disait ma mère. Mes grands-parents me reprenaient à voix haute devant tout le monde. Je le faisais devant la télé, parfois avant de m'endormir, je le faisais dans la voiture. À y réfléchir, ce n'était pas une histoire de peau, parce que je me souviens que ça marchait aussi avec la manche droite de mes pulls au vert. Les petites peaux qui craquaient mes lèvres se prenaient dans la maille, j'aimais la sensation de traction, comme si ma bouche allait se déchirer par petits bouts, ce qui ne se produisait jamais. La peau lâchait avec un petit bruit inaudible et je reprenais mon manège, concentré ou absent. La résistance de mon avant-bras, la douceur de mes lèvres, la saveur de la salive, sa persistante fragrance, substituaient évident d'un plaisir que je ne connaîtrais que des années plus tard, ou alors un souvenir antérieur, intérieur, universel. Et c'est intéressant aussi ça, enfin justement par rapport au titre, l'emploi du temps, parce que ça aussi, enfin, le gros truc de savoir quel serait le titre, ça a été vraiment un gros truc. On s'est vraiment posé la question pendant bien 3 semaines à se demander qu'est-ce qu'on allait faire, quoi. Et vraiment, je voyais pas, on cherchait des choses, enfin, un peu sur, entre photos, entre le texte, entre littérature, photographie. Enfin, on avait des amis, peut-être que tu connais en fait, Claire Legendre, qui est une écrivain de chez Grasset, qui est assez connue et qui travaille en photographie avec son ami, qui est aussi écrivain, qui s'appelle Jérôme Bonnetto. Et tous les deux avaient publié un petit livre qui s'appelait Photobiographie. Et qui est aussi un très très joli livre, qui fonctionne aussi sur ce principe-là, avec des choses très très intimes et des photographies. Donc, très étonnamment, en fait, on a fait le lien, je veux dire, avec leur travail bien longtemps après. Et eux sont des super fans de l'emploi du temps, donc c'est assez agréable. Mais donc voilà, on cherchait un peu ça. Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est que Jean-Pierre, donc le photographe Jean-Pierre Parago, est instituteur. Et donc, l'emploi du temps, moi, ça m'a traversé un matin parce qu'il partait au boulot et je lui ai dit, c'est quoi ton emploi du temps? Je lui ai dit, ah bah tiens, bah voilà, l'emploi du temps, c'est pas mal, quoi. Et donc, on a été d'accord sur l'emploi du temps et c'est super longtemps après, en fait, dans le déroulement, qu'on s'est rendu. Moi, je me suis rendu compte déjà qu'il y avait. Que le temps du passé s'imposait en fait à l'écriture, parce que les premiers textes étaient un petit peu au présent, un petit peu au futur, il y avait un peu une sorte de mixte. Et puis petit à petit, on a là aussi, en fait, au-delà de la régularité, de la quotidienneté, on s'est dit qu'il fallait aussi, enfin, moi je me suis dit en tout cas en tant qu'écrivain, que j'avais besoin d'une certaine ligne aussi de directrice d'écriture ou de littérature, quoi. Et du coup, en fait, vraiment le temps s'est imposé, et le temps c'était, je crois qu'il y a une note qui s'appelle L'imparfait justement qui en parle, et qui dit simplement ça, le temps s'imposait, et voilà, en plus c'était un moment où on était en deuil par rapport à la perte de quelqu'un qui était cher, donc le temps s'imposait, enfin. Les temps du passé, il y avait vraiment quelque chose. Et donc on s'est rendu compte que le titre sonnait autrement. C'était l'emploi du temps du passé, quoi. Et je l'avais pas du tout entendu jusque-là. Et voilà. 31 décembre 2006, le réveillon. L'hiver, la famille se réunissait au château. Le réveillon débutait par l'apéritif dans le grand salon que l'on ouvrait à cette seule occasion. Le dîner se déroulait ensuite dans la grande salle à manger. Les enfants occupaient une table ronde, tandis que les adultes se répartissaient par âge de gauche à droite de la table principale. Il n'y avait pas d'autre musique que les rires et les bavardages et le son d'une télévision au loin, allumée dans le bureau auprès de la cheminée, et que l'on rejoignait parfois pour prendre l'air, de la distance, fumer une cigarette ou essuyer une larme pour quelqu'un qui n'était pas là, une remarque blessante ou une rancune qui ne guérirait jamais. Et en même temps, ouais, et justement par rapport à ça, en fait, l'enrichissement, alors le truc aussi, c'est que dans la mesure où tout en étant quotidien, il n'y a pas une progression, parce qu'en fait, le but aussi, c'était pas forcément de faire quelque chose qui se suivait, mais plutôt de faire appel à des souvenirs, de faire appel à des... À une anecdote qui se passait dans la journée qui du coup déclenchait un souvenir ou pas du tout, ou à une projection ou à simplement rester sur l'anecdote, enfin donc il n'y avait pas. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte moi aussi en fait, dans l'écriture en tout cas, la photographie, on peut en parler après en fait, c'est, l'intervention est différente, mais en tout cas dans l'écriture, il y avait en effet des choses que j'avais écrites, donc comme tu dis, l'année précédente ou qui me revenaient et je me disais mince, aujourd'hui j'ai envie de revenir sur cette anecdote-là et d'en reparler quoi. Et j'avais aussi, à l'inverse, des fois une impression, d'un coup je commençais un texte, je me disais mince, je l'ai déjà écrit. Et c'était, alors parfois c'était vrai, étrangement en fait, et c'était quasiment les mêmes mots qui revenaient en fait sur un désir ou sur un sentiment, et parfois c'était complètement absurde, c'était complètement pas vrai, et c'était simplement parce que c'était une chose qui était tellement en moi enfin, depuis longtemps qu'en l'entendant, en fait, d'un coup en la voyant, je me disais bah oui, enfin, forcément c'est quelque chose que j'ai déjà dit. 24 décembre 2006, La Mouche. Lorsque la panne survenait, de façon quasi systématique tous les 3 ou 4 mois, je tentais de me rappeler que le défaut de connexion au serveur se réglait de lui-même sous un délai variable qui allait de quelques heures à quelques jours, après quoi Internet fonctionnait à nouveau normalement. Je ne parvenais pourtant pas à m'empêcher d'appeler le service technique de mon fournisseur d'accès dans l'espoir d'entendre simplement que c'était normal, qu'il y avait un problème sur la ligne qui serait résolu incessamment. J'aurais accepté aussi une excuse sobre pour le désagrément, j'y aurais opposé la satisfaction quotidienne que j'éprouvais à lire mes mails et à parcourir le web, au contraire de quoi le technicien accusait à chaque fois ma configuration et tentait par tous les moyens possibles de me faire changer les paramètres de mon ordinateur, ce à quoi je résistais vaillamment, arguant que le problème avait déjà eu lieu avec une résolution miraculeuse que je n'expliquais pas et qu'il refusait d'entendre. Il finissait par me raccrocher au nez, prétextant que je ne coopérais pas, lorsque je proposais naïvement d'arrêter les frais et de le rappeler quand ça fonctionnerait à nouveau pour qu'il me dise ce qui, d'après les systèmes informatiques en sa possession, avait changé entre le jour de la panne et le lendemain. Je me raisonnais enfin sur la nécessité d'Internet, je me disais que la vie serait décidément plus simple si l'ordinateur n'avait jamais pénétré le domicile. J'imaginais les heures de lecture que je retrouverais, le temps que j'allouerais à nouveau à l'écriture d'un roman, toutes les choses simples qui m'éloigneraient de la toile qui m'avait capturé depuis quelques années et refusait de me rendre ma liberté. 5 décembre 2007, L'Avant. On avait dans l'idée d'apporter à notre logeur new-yorkais quelque chose de typique. On entrait dans les supermarchés et dans les boutiques spécialisées en décoration à la recherche de guirlandes, souhaitant de joyeuses fêtes ou la bonne année en français. On comparait les prix et les couleurs, la teneur des messages et la praticité de l'empaquetage. On avait repéré un calendrier de l'Avant sur lequel était brodé un ange en tissu qui faisait la gueule. C'était flagrant, il n'y avait pas l'ombre d'un sourire sur le visage du chérubin, mais une tristesse consternante. Je me souvenais de l'épisode de Friends, dans lequel Phoebe achetait tous les sapins oubliés le soir du réveillon. J'étais passé à la caisse sans hésiter avec le calendrier dont personne ne voudrait jamais. Je sentais l'esprit de Noël me gagner, un sentiment 100% américain comme l'étaient mes références à cette période de l'année. Pour le logeur, on avait finalement opté pour une pochette d'autocollants dont l'un disait « la neige s'écoule ». On n'y échappait pas. Très au départ, donc, une chose donc, qui était certaine en tout cas, c'est qu'on ne voulait pas faire de l'illustratif. On ne voulait pas que... le texte dise quelque chose et que voilà avec la photo vienne paraphraser le truc d'une façon un peu lourde et, voilà. donc très au départ on s'est plutôt dit qu'on allait, Jean-Pierre lui a un travail de photo très régulier donc il a des bases de données énormes parce qu'il enregistre pour des photos longtemps. Et moi de mon côté je savais que chaque jour donc je pourrais, enfin voilà, j'aurais un texte qui viendrait, j'avais assez confiance en tout cas dans mes capacités à produire en tout cas au quotidien un texte assez court, ça aussi je fais un petit peu. Ce qu'on voulait aussi, c'était que par rapport à des choses sur des blogs qu'on lisait qui étaient particulièrement longues en permanence, tout ce qu'on voulait, c'est que l'écran d'ordinateur puisse tenir en une seule vision et la photo et un texte, donc plusieurs lignes, mais donc qui ne dépasserait jamais et qui ne nécessiterait pas un défilement. Donc c'était aussi, donc forcément pour moi, pour Jean-Pierre, en tout cas, une contrainte photographique de mettre qu'une seule photo et pour moi, une contrainte de taille de texte et donc d'être très synthétique dans ce que j'avais à dire. Et, Et donc au départ, en fait, on s'est un peu dit, bah écoute, tu écris de ton côté, moi je me choisis une photo, ça sera un petit peu, c'est un peu ma photo du jour et on va voir. Quoi. Et donc on s'est un peu rencontrés au départ de cette façon, assez spontanément. Ça fonctionnait hein, quasiment tout le temps parce qu'on se connaît beaucoup. Et, donc forcément, il y avait à chaque fois un point d'accroche entre les deux qui était des fois très amusant, des fois complètement à contre-pied. Justement, c'était d'autant plus intéressant. Enfin, voilà. Mais en même temps, on a quand même senti qu'il y avait un des deux qui devait prendre quand même le pas. Quoi. Et donc du coup, vers le début, je pense que réellement, il y a eu Jean-Pierre a de temps en temps proposé des photos spontanément. Et donc moi, j'ai réagi à partir de la photo. Mais très vite, en fait, voilà, ce que je parlais tout à l'heure sur l'égocentrisme et sur la prise de pouvoir, la littérature a pris le pouvoir sur l'image. Et donc c'est moi qui est du coup alimenté. Donc c'est plutôt donc moi qui écrit. J'écris. Donc aujourd'hui, après cette fameuse année dont je parlais, on est à un rythme qui est différent. Quoi. On est sur des... On parlera après en fait, peut-être, mais sur des projets, à certains moments, par exemple des déplacements, où on fait vraiment, on revient sur ce quotidien, mais le reste du temps, on tourne sur maintenant 2-3 notes par semaine, voire une note par semaine suivant les moments où il se passe un peu moins de choses, ou du coup, enfin voilà, donc là on a un rythme un peu qui est différent. 20 juin 2008, le combat capital. Lorsque le téléphone fixe n'affichait pas le numéro de l'appelant, on devinait que c'était un organisme publicitaire qui démarchait. C'était facilement identifiable au décrochage, dans la mesure où le correspondant massacrait ton nom ou demandait à parler à madame. On ne faisait preuve d'aucune patience à son endroit, et on inventait des drames grandiloquents dans le but de désarçonner l'interlocuteur. On espérait ainsi qu'il rirait ton nom de sa liste, mais les appels se multipliaient au contraire, les voix changeaient, la présentation se faisait à la fois plus précise et plus méprisante. On raccrochait amer avec le sentiment d'avoir perdu un combat capital dont les enjeux cependant se dérobaient. 9 juin 2008, le crime abominable. Le week-end avait attendu malgré soi l'arrivée de courriers électroniques sur les messageries de l'un et de l'autre. Il y avait une actualité qui, si elle n'allait pas changer la face du monde artistique, du moins de prime abord, était à nos yeux remarquable. On avait donc gardé les ordinateurs allumés pour ne pas en perdre une miette, mais un silence borné avait plombé les appareils et le moral, jusqu'à ce qu'en désespoir de cause, on se décida à tourner le dos à l'informatique pour s'abîmer dans des crimes abominables que proposait la télévision du dimanche soir, savourant sans se l'avouer des vengeances indicibles à l'égard de tous ceux qui, occupés ailleurs, nous avaient abandonnés. On est parti donc à New York, donc dans la lecture, donc on parlait du logeur new-yorkais et tout ça, et donc on est parti Jean-Pierre et moi pendant 5 semaines à New York pendant les fêtes 2007. C'est ça, oui. Donc l'année dernière, en fait, on est parti du 15 décembre au 15 janvier. Quoi, voilà. Et en arrivant à New York, on n'est pas parti sur un projet de travail particulièrement. Mais très vite, forcément, la photo a été absolument omniprésente à New York. Et donc, c'était des grandes promenades compliquées, parce que donc il y avait 500 photos au moins par jour, et donc et dans un froid assez glacial. Et moi, forcément, bah, voilà, New York, c'est une ville qui donne envie d'écrire. Et donc très très vite, on a compris en fait que les lignes de New York, que l'envie de New York allait forcément enrichir et nourrir en tout cas un travail en fait, qui serait là pour le coup un travail suivi. Et donc du coup on est retombé sur un rythme complètement quotidien à partir donc du 16 ou du 17 décembre et jusqu'au 14 janvier quasiment non-stop à tous les jours rentrer donc une photo, enfin en tout cas lui choisir une photo, moi écrire un texte en rapport avec les rencontres, surtout avec les lignes de métro parce qu'étrangement, enfin moi j'ai un rapport très à la fois physique et très sentimental en fait à tout ce qui est ligne de métro, enfin voilà j'adore ça, moi je respire dans le métro parisien je vois tous les gens qui disent mon dieu c'est horrible on respire pas et moi je rentre dans Paris et ma première truc c'est de rentrer dans une station et de me dire oh, ça y est je revis quoi en fait et donc New York tout de suite ça m'a fait la même chose, je me suis tout de suite senti complètement à l'aise sur l'orientation etc et donc voilà, et donc on a pendant ce mois donc alimenté donc le blog avec en plus un décalage par rapport à la France qui était assez amusant parce qu'on avait donc des lecteurs qui suivaient et qui lisaient nos aventures new-yorkaises avec 6 heures et avec une journée à chaque fois de décalage, donc c'était sympathique. Et donc à la fin du séjour, en rentrant en France, je me suis rendu compte réellement donc le projet final en fait était cohérent quoi du premier jour justement sur cette note sur l'Amérique et sur le logeur jusqu'au retour et j'ai compacté le l'ensemble, donc photo, texte, je l'ai remis dans le bon ordre, puisque du coup, j'ai proposé ça à François, que j'avais rencontré, à François Bon, donc que j'avais rencontré sur un autre texte que je lui avais proposé l'année précédente, et dont il avait renvoyé des échos assez positifs en disant qu'il irait bien autre chose, donc je lui ai envoyé ce texte, mais sans du tout savoir que le projet Publi.net se montait. Et j'ai envoyé ça, et dans les 10 jours qui ont suivi, en fait, j'avais un message sur lequel, bah, voilà, il réagissait bien, il trouvait que... voilà, que l'emploi du temps était cohérent, que le blog était cohérent, que l'ensemble avait sa place sur ce projet-là. Et donc ça s'est mis en place très, très rapidement, quoi. Donc je crois que ça a été publié début mars sur Publi.net. Et donc ça a été ma première collaboration avec François Bon, réel. Voilà, donc je suis très fier.